Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour cette belle présentation que vous nous avez proposée. Et j'ajoute que j'ai eu la chance de découvrir votre texte bien avant la séance d'aujourd'hui, donc ce qui m'a permis de préparer cette séance dans des conditions idéales. Je voulais quand même le dire. Je pense que votre texte et votre présentation ont en outre le mérite de présenter une thèse que vous exprimez de manière extrêmement claire et que vous illustrez de manière très vivante. La preuve, c'est ces extraits que je découvrais aujourd'hui en même temps que tout le monde. Vous parvenez à mettre vos réflexions à la portée de ceux qui ne sont pas spécialistes, et a fortiori pas spécialistes de la Grèce antique. Alors, la thèse que vous développez, on peut presque la récapituler sous la forme d'un tableau que j'ai dessiné ici, mais on a ce passage historique du juge juré et le passage à une autre figure du juge qui est le on peut appeler le juge magistrat, avec à chaque fois des oppositions toutes très claires entre d'un côté une fonction anonyme et de l'autre l'apparition d'un métier, d'une profession avec l'idée de personnalisation qui apparaît. Au niveau de la mode de désignation, on a le tirage au sort d'un côté auquel vous avez fait référence en rappelant aussi l'aspect religieux de la chose, la référence à Zeus notamment. Et de l'autre côté, lorsqu'on considère le juge magistrat, on a une élection, puis, si j'ai bien compris, ça devient un attribut des oligoïs à la fin de l'évolution. Et donc, on a ce passage, encore, d'un citoyen parmi les autres à un citoyen au-dessus des autres. Alors, vous êtes parvenu à identifier deux figures du juge pour le prix d'une, finalement, j'aurais envie de dire. Vous dressez le portrait robot de deux figures idéales typiques du juge qui sont manifestées durant l'Antiquité grecque. Et c'est tout à votre honneur d'avoir joué le jeu du séminaire qui est de dégager au sein de diverses disciplines et de courants intellectuels des figures du juge et d'essayer de les délimiter avec le plus de précision possible. Vous conférez à cette figure du juge la position de centre de gravité de votre réflexion. Et c'est vraiment pour nous organisateurs au moment de cette 9e séance tout à fait intéressant de vous écouter. D'autant que vous parvenez aussi à nous donner non seulement des données historiographiques, mais aussi vous émettez des hypothèses sur un plan plus psychosociologique en expliquant par exemple les raisons qui expliquent l'évolution de la mission qui est confiée au juge au sein de la cité. Alors, puisque on m'a confié ce rôle de discutant, je vais peut-être, justement, puisque vous avez si bien joué le jeu, déplacer la focale en ne me concentrant pas sur la figure du juge, mais en tentant de l'éclairer peut-être à partir d'autres questions qui sont liées, qui sont pour moi également centrales pour comprendre la mission du juge, la mission politique du juge. C'est-à-dire de déplacer la focale en abordant deux thèmes que je vais annoncer et puis je vais les commenter un peu. Le premier thème à partir duquel je souhaiterais vous interroger, c'est le problème de la loi. Donc, et de façon corrélative, je dirais, la question du rôle dans la cité antique, non pas du juge mais du législateur, qui est une question que vous avez abordée mais qu'on pourrait peut-être approfondir. La question pourrait être formulée autrement en disant quelle est la vision de la loi aussi qui sous-tend cette évolution du rôle du juge dont vous avez rendu compte. Et la seconde question que je voulais vous poser était celle des rapports entre la justice et la religion, c'est-à-dire entre le fait politique et juridique d'une part et d'autre part le fait religieux. C'est aussi une question que vous rencontrez dans le cheminement de votre pensée, mais qu'on pourrait peut-être, à partir du moment où on a maintenant ces deux figures idéales typiques de juges, questionner à partir de ces deux angles d'approche. Alors, je pense que ces deux questions sont en réalité connectées, de manière pour moi assez évidente, et que pour expliquer ce que j'ai en tête, je vais me référer à deux grands auteurs, l'un qui est historien et l'autre qui est une philosophe, qui ont développé deux grandes thèses qui sont presque antagoniques au sujet du problème de la loi dans la Grèce ancienne et le mot grec pour désigner la loi étant le nomos. Bien que, on en a parlé avant, au niveau du vocabulaire utilisé, ce ne soit pas si simple que ça. Alors le premier auteur, c'est un grand historien du XIXe siècle qui est Fustel de Coulanges et qui a écrit un livre classique qui s'appelle La cité antique et dans laquelle, je ne vais pas aller dans toutes les nuances, mais en tout cas, il développe une thèse assez massive qui met l'accent sur l'origine ainsi que sur la nature profondément religieuse des institutions politiques et juridiques tant grecques que romaines durant l'Antiquité. Pour Fustel de Coulanges, la cité antique est un monde structuré de part en part par la religion. Religion dans laquelle le lien social mais également les institutions politiques et juridiques les plus essentielles enfoncent leurs racines. Pour Fustel de Coulanges, on ne peut même pas parler d'un conflit entre l'État et la religion dans le cadre de la cité antique, puisqu'on ne peut que difficilement distinguer les deux. Alors, comment pose-t-il la question du législateur? Je suis allé voir. Je n'ai pas trouvé de passage qui concernait le juge. Je n'ai peut-être pas encore cherché suffisamment bien, mais en tout cas, il parle du législateur. Mais pour enfoncer le clou de cette thèse massive qui structure sa pensée dans la cité antique, en disant que si on entend par législateur quelqu'un qui a créé ou inventé, dit-il, les lois de la cité, on ne le trouvera pas ni du côté grec ni du côté romain, parce que chez les anciens, nous dit Fustel de Coulanges, les lois renvoient à quelque chose d'antique, d'immuable, de vénérable, et elles sont aussi vieilles que la cité. Et, ajoute-t-il, c'est le fondateur qui les a posées. Il les a instituées en même temps qu'il instituait la religion. Et un peu plus loin, il insiste, voilà comment la loi s'est faite, elle s'est présentée d'elle-même, et sans qu'on eût à la chercher, elle était la conséquence directe et nécessaire de la croyance. Elle était la religion même s'appliquant aux relations des hommes entre eux. En d'autres mots, et pour résumer la thèse de Fustel de Coulanges, la religion elle-même, les rites, appelaient un certain type d'institution qui s'accordait à elle, et il y a une préséance, donc il développe une thèse que je peux qualifier de théologico-politique, avec un accent qui est placé sur le pôle théologique. Alors, venons-en à la philosophe, je lève le suspense tout de suite, puisque c'est Hannah Arendt, la philosophe qui a développer une thèse qui est assez différente au sujet de la conception grecque de la loi et au sujet des rapports entre politique et religion dans le monde antique. Alors, si je devais qualifier en une seule formule cette thèse de Hannah Arendt, je dirais que c'est une thèse artificialiste. C'est-à-dire que elle affirme que le nomos grec, la loi grecque, était conçue par les anciens grecs comme une œuvre, c'est-à-dire comme un produit issu de l'activité fabricatrice. Vous avez parlé longuement des juges étrangers dans votre présentation. Et Arendt, elle, tire argument de l'existence de législateurs étrangers dans les cités grecques, c'est-à-dire, elle surinterprète sans doute cette réalité historique, mais elle dit, eh bien, puisque dans les cités grecques, on pouvait faire venir de l'extérieur un législateur et lui demander de poser une fois pour toutes les lois de la cité, cela montre bien que, dans l'esprit grec, le législateur se rapprochait plus de l'urbaniste ou de l'architecte. Et que ce qui a importé, c'était son savoir-faire, tout comme on attend d'un artisan spécialisé qu'il maîtrise une technique déterminée. Alors, la deuxième grande caractéristique du nomos dans la conception proposée par Hannah Arendt, qui découle de celle-là, en quelque sorte, c'est que la loi, le nomos, ne constituait pas une œuvre divine, donc j'en viens à l'aspect religieux de la chose, ce n'était pas une œuvre divine, mais une œuvre humaine. Et comme Arendt connaît très bien l'histoire et les institutions de l'Antiquité, elle nuance évidemment sa position, en proposant de distinguer deux questions, la question de la création de la loi et la question de son inspiration. Et là, son argument vaut autant pour le monde grec que pour le monde romain, en disant, il est vrai que la loi dans l'Antiquité grecque et romaine était inspirée par les dieux, mais les dieux ne faisaient qu'encourager ou décourager une initiative humaine. Et elle voit là la signification profonde des auspices. Et donc voilà, c'est un peu avec ces lunettes-là que je vous ai lu, que je vous ai écouté aujourd'hui. Je voulais vous poser ces deux questions qui sont, je m'en rends compte, assez massives, mais donc si je reviens à ma première question, et pour revenir à votre manière d'introduire vous-même votre présentation en disant, tiens, on a de grandes figures du législateur, mais pas de figure du juge. Et donc, finalement, pourquoi la figure du législateur était-elle si importante? Et la deuxième question serait double, serait quelle était la conception selon vous que se faisaient les anciens Grecs de leur législation, et quelle est pour vous la portée heuristique de ces interprétations-là que j'ai rappelées très très brièvement? Et a-t-elle éventuellement... est-ce que ça nous permet de penser quelque chose de l'activité des juges? Parce que j'ai l'impression que dans le texte que j'ai lu et en vous écoutant aujourd'hui, ce sont des questions que vous abordez en rappelant que les juges sont chargés de rappeler par leurs décisions ce qui fonde la cité, que la cité est fondamentalement liée aux lois, qui la définissent, qui la protègent, que par son verdict, le tribunal ou le juge finalement rétablit la cité qui a été éventuellement déséquilibrée par un acte qui est porté devant les juges. Donc finalement, pourquoi les lois sont-elles si importantes pour la cité, et quel est le rôle qu'on attend des juges? Finalement, en reconstituant les réponses d'Arendt et de Fustel de Coulanges à cette question, ça serait, Arendt dirait, eh bien parce que les lois constituent la physionomie de la cité, elles sont comme les murailles de la cité, et donc les violer équivaut à porter atteinte à la cité. Et la réponse de Fustel de Coulanges serait peut-être plus de dire, eh bien, les lois sont sacrées, et puisque la religion et les lois s'identifient presque, violer les lois, c'est aussi les profaner. Voilà, ce serait ma question tout à fait massive. Alors j'avais des petites questions que je garde peut-être pour la discussion.
Alors, je commençais par une comparaison. Quand on a une comparaison très hardie, mais vous savez, à la fin d'un procès, souvent les avocats sortent et expliquent que, alors le vainqueur, que c'est très bien, qu'on a bien répondu aux valeurs de la République. En tout cas, en France, c'est comme ça que l'on dit. Et puis, à l'inverse, celui qui a perdu explique que c'est terrible, parce que désormais, pour la République, ça n'ira plus du tout comme avant. Et bien là, c'est exactement la même chose, me semble. Il y a le mythe, la grande figure du législateur, puis il y a la réalité du procès. Ce que dit l'avocat sur, en haut de l'escalier n'est pas du tout en conformité avec le débat qui s'est passé dans le tribunal. Les procès grecs étaient des procès extrêmement pragmatiques, et les lois grecques aussi. Il s'agissait tout simplement de différends essentiellement commerciaux. C'est-à-dire qu'on avait fait, par exemple, un prêt pour envoyer un navire avec de la cargaison, et le navire ne revient pas. Qui va payer ? Que va-t-il se passer ? Ça n'a rien à voir avec du mythe. C'est vraiment très, très pragmatique. Donc les lois de la cité ne sont pas des très vieilles lois. Elles sont faites régulièrement par le peuple, en assemblée, avec des lois, des décrets, des différents termes, différents statuts. Et ces lois sont consignées dans des archives, sont écrites, sont gardées. De la même manière, dans un procès, on étudie, on a certes la loi, ce que dit la loi, mais on y revient assez peu. On revient surtout aux pièces, aux contrats, donc à des pièces privées, qui vont là aussi être archivées ou bien dans les archives de la cité ou bien chez des particuliers avec des témoins. Donc là encore, des pièces tout à fait récentes. Et beaucoup de différends, beaucoup de procès vont se régler tout simplement par l'examen de ces pièces, par l'écoute des témoins. D'autre part, les lois sont refaites, enfin sont faites dès qu'il y a un problème, on va refaire une loi. C'est une démocratie très directe, la cité grecque. On se réunit tous les matins, on parle des affaires de la cité, donc on peut voter assez rapidement des décrets et des lois. Et on a des attestations de cité où les lois étaient dans un tel état de désordre qu'il a fallu faire une grande réforme et un grand rangement dans les archives de la cité. Je pense notamment à la réforme de Paros. Donc l'idée de Fucel de Coulanges des lois aussi vieilles de la cité, que la cité, oui évidemment il y a le côté mythique, la cité est fondée par des lois, mais concrètement c'est faux. Les vieilles lois sont le fait qu'on est dans une cité, on a un corps de citoyen, éventuellement qui peut être citoyen et encore, cela change en fonction des époques, mais les très très vieilles lois auxquelles il fait référence n'existent bien sûr pas. C'est un mythe, c'est le mythe de la cité grecque. Tout comme est mythique le législateur qui viendrait faire des lois une bonne fois pour toutes. On raconte cela pour Lycurgue, législateur de Sparte. En réalité, il y a beaucoup, beaucoup de personnes et une époque très longue derrière l'image de Lycurgue. Mais cela dit, c'est très bien que le mythe fonctionne. Mmh. C'est un peu l'idée du mythe, nous faire croire que... Donc on en appelait au mythe, on en appelait à ses valeurs. On en appelle toujours à ses valeurs lorsque, par exemple, il y a des morts dans une patrie, il y a des oraisons funèbres, etc. On va revenir aux grandes lois de la cité, à ce qui nous fonde, nous, Athéniens. Mais au quotidien, dans le procès, non, on n'est pas face à des lois immuables ou face à des très vieilles lois. On est tout simplement face à des décrets qui viennent d'être pris il y a quelques dizaines d'années, 20 ans, et qui fonctionnent très bien, ou bien des pièces de contrat de particuliers. Et deuxièmement, il ne faut pas confondre... Alors, derrière le mot religion, là aussi c'est un mot un peu... c'est un piège. Il n'y a pas de religion dans les cités grecques. Tout peut être sacré, tout peut être lié au sacré. Il y a surtout un rite. Ce qui est important dans la religion, c'est de faire toujours les mêmes gestes. Et en ce sens, le procès a quelque chose de religieux, puisqu'on a toujours les mêmes gestes, on siège de la même façon, etc. Mais il n'y a peut-être rien derrière ces gestes. Il ne faut pas essayer d'y trouver un sens, et certainement pas un sens philosophique, comme nous sommes amenés souvent à le faire actuellement. Donc il y a bien sûr un écart entre la figure de Zeus, et Zeus qui donne ses lois à la cité, ça c'est le mythe, et puis les lois tout simplement. Thémis, la figure de la justice, n'était jamais invoquée dans un procès, sauf de manière rhétorique, et encore, c'est très rare. Et tous ces textes sur Zeus, Thémis, etc., sont des textes de poètes qui veulent donner une certaine image de la justice, mais n'ont peut-être rien à voir avec le procès grec, le juge, qui jugeait, là aussi, je vous le rappelle, j'insiste bien sûr, essentiellement des procès commerciaux. Dans la cité grecque, qui va en justice? Les riches commerçants ou les riches citoyens, tout simplement, qui ont des intérêts essentiellement maritimes aussi, puisqu'on est dans des cités souvent maritimes, et qui ont des problèmes contractuels. On n'a pas remboursé le crédit, ou on a perdu la marchandise, ou on n'est pas d'accord sur l'emprunt, etc. Donc la justice est quelque chose d'extrêmement pragmatique. Elle ne concerne qu'un très petit nombre de citoyens au quotidien, et il y a un écart immense entre l'idée de justice que va transmettre les poètes, que peut transmettre la tragédie, et puis ce qui se passe réellement dans la cité. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé en privé d'un exemple. Vous connaissez tous Euripide, bien sûr. Et le procès d'Oreste, enfin les tragiques, Euripide, Sophocle, Eschyle, et le procès d'Oreste qui a tué sa mère, Clytemnestre, et Florence Dupont, qui va être jugée pour cela devant l'Aréopage. Donc c'est pas du tout un document historique. Florence Dupont a bien montré que tuer une femme, que ce soit citoyenne ou non, n'a aucune importance. On ne va pas en procès pour cela. On ne va pas aller devant l'Aréopage pour cela. Si on tue un citoyen, bien sûr, on va être jugé. Ça, c'est un crime. Si on tue un métèque, on peut, donc un étranger domicilié, on peut être jugé. Mais tuer une femme, même si c'est sa mère, c'est un problème familial. Donc ça n'a absolument pas à sortir de la sphère de la famille. C'est un mythe. C'est un mythe qui nous a été transmis. Donc il faut se méfier des mythes. Ils ont très peu à voir avec la justice en général, telle qu'elle était faite dans la cité grecque. Mais c'est très bien d'avoir des philosophes. Les Grecs, on avait aussi beaucoup. Ça permet de penser, bien sûr, d'apporter des concepts. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas vraiment avec le modèle de la justice grecque.